tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur, ce sera tout à fait
Non, c'est pas vrai, les vaches sont parties. Elles sont parties, mais c'est la lune maintenant qui fleure. Bon, le purin, l'odeur de la campagne qui s'est levée dans le studio de Honte Femme 93.8 MHz sur Radio Zone. Allez, les vaches, vous connaissez la chanson? C'est la vache bleue. Nanana, je me souviens plus du reste. Bon, ça fait rien. Allez, on est parti. Radio Pleine Lune 93.8 MHz dans quelques instants. Les nouvelles. Marjolaine, tout en vert et en noir, à la technique, nous a préparé aussi toute une série de rendez-vous. Alors, dans quelques instants, les nouvelles. Radio Pleine Lune 93.8 MHz, nos nouvelles. À Moscou, c'est le bord de l'explosion sociale. On n'ose plus dire en URSS. Qu'est-ce qu'on va devoir dire maintenant? En tout cas, les magasins d'alimentation sont désespérément vides et Moscou tremble et commence à se mettre en colère. Attendu d'ici quelques jours ou quelques semaines, l'explosion sociale couve dans les files d'attente des moscovites qui perdent peu à peu le sens de la solidarité au profit d'une véritable loi de la jungle devant des magasins d'alimentation désespérément vides. Les cas d'agression verbale, voire de pugilat, se sont multipliés au cours des deux derniers mois devant les magasins à tel point que la mairie de Moscou prévoit une explosion sociale d'ici quelques temps si rien n'est fait pour rétablir l'approvisionnement des 9 millions de moscovites. Les soviétiques sont rompus depuis déjà longtemps au fil d'attente interminable. Mais aujourd'hui, après plusieurs heures d'attente dans le vent et le froid, les acheteurs transis ne sont pas sûrs de trouver quelque chose à manger quand vient leur tour. On pourrait plutôt dire les acheteuses, puisque ce sont principalement des femmes qui se trouvent dans ces queues, qui sont responsables de l'approvisionnement de toute la famille. Les prix des produits de base ont été en moyenne doublés le 2 avril dernier. Le litre de lait est passé à 65 kopecks, le kilo de viande à 7 roubles ou encore le kilo de pain à 60 kopecks. Quand il faut savoir qu'une femme retraitée touche 215 roubles de pension par mois, on peut imaginer qu'est-ce qu'elle peut s'acheter. Les prix n'ont d'ailleurs pas encore été libérés, comme le prévoit Boris Eltsine. Aux USA, démission du secrétaire général de la Maison-Blanche. En se séparant mardi de l'un de ses proches, le secrétaire général de la Maison-Blanche, John Sununu, M. Bush a tenu compte de la baisse de popularité dans les sondages. John Sununu, d'extrême ultra-conservateur, anti-avortement, pro-nucléaire, il est tenu également responsable de la faiblesse de la politique écologique du président, de l'impasse sur le budget ou sur la loi pour les droits civiques. Il a entre autres aussi abusé de son pouvoir en utilisant des jets et limousines du gouvernement pour ses déplacements personnels. Les ultra-conservateurs qui estiment que Sununu est un bouc émissaire et les groupes anti-avortement sont les seuls à verser une larme sur son départ. « prostituées de force par l'armée japonaise. Trois coréennes affirmant avoir été parmi quelques 100 000 femmes enrôlées de force comme prostituées pour les troupes japonaises pendant la Seconde Guerre mondiale poursuivent le gouvernement japonais pour crimes contre l'humanité. Les trois femmes qui réclament 20 millions de yens chacune, environ 200 000 francs, sont soutenues par les familles des 16 autres filles de plaisir, comme on les appelait. Kim Hamsung affirme avoir quitté Pyongyang à l'âge de 17 ans en 1939, après avoir reçu l'assurance de trouver un emploi bien rémunéré. Emmenée en Chine au bord d'un train militaire, elle affirme avoir été menacée de mort si elle refusait de se prostituer dans un régiment qui comptait plus de 300 soldats japonais. D'après le dossier suivi par le tribunal de Tokyo, plus de 100 000 femmes, en majorité coréennes, ont subi le même sort entre 38 et 45. Toujours aux États-Unis, pétition en faveur de la pilule abortive. Les maires de 30 villes américaines représentant plus de 19 millions d'habitants se sont mobilisés en faveur de l'introduction aux États-Unis de la pilule abortive, le RU486, des laboratoires français. Ce sont les maires des villes de New York, San Francisco, Washington, Los Angeles, Philadelphie, Seattle ou Atlanta qui ont consigné une pétition adressée au président George Bush et au président de la Russell UCLAF pour demander la mise en route du processus permettant la mise sur le marché américain de cette pilule. Aux États-Unis, le blocage vient plutôt de la filiale américaine du groupe allemand Hearst qui contrôle la distribution de cette pilule. Hearst Celanese n'a pour l'instant déposé aucune demande d'agrément de la RU486 car, je cite, « il craint pour l'image de la compagnie alors que le mouvement anti-avortement très puissant aux États-Unis a déjà menacé de boycotter les produits de la firme si le RU486 est commercialisé. » Au Pakistan, Samil ul Haq, fervent défenseur de la charia, du code de la famille, a dû démissionner de son poste de sénateur après avoir été convaincu de fréquenter une maison close. Le très dévot et très estimé sénateur Samil ul Haq possède, comme il se doit, deux épouses, une barbe digne d'un mutawa saoudien et des idées très arrêtées sur la lapidation des femmes adultères. Il s'est illustré comme le promoteur de l'adoption dans la constitution pakistanaise de la version la plus fondamentaliste de la charia, le code de la famille. Projet d'ailleurs qui fut délayé par la bureaucratie avant d'être adopté voici quelques mois. Le sénateur Mollah s'est également fait le pourfendeur de Benazir Bhutto, arguant qu'il ne sied pas à une femme de diriger un pays des purs. Une rumeur court cependant au Pakistan que Samil ul Haq fréquentait assidûment un bordel. Il a dû démissionner à la mi-novembre de son poste de secrétaire général de l'Alliance islamique, un parti religieux, membre de la coalition au pouvoir. Il se cacherait depuis dans son village natal à la frontière afghane pour échapper à la flagellation publique prévue pour les clients des maisons de passe. En Israël, la police israélienne voudrait faire arrêter Mme Hanan Ashraou, porte-parole de la délégation palestinienne à la conférence de Madrid, parce qu'elle s'est entretenue avec des responsables de l'OLP. Cette affaire a suscité un tollé international. Au Japon, après les Français, ce sont les infirmières japonaises qui se sont mises en grève, timidement mais en masse. Elles étaient 100 000 à obéir aux consignes. Des débrayages d'une demi-heure ou d'une demi-journée, elles ont manifesté en rue à Tokyo devant le ministère de la Santé. Pour une fois, la contraception est évoquée au synode, un véritable pavé dans la mare. C'est pour la première fois un évêque a parlé en faveur des contraceptifs. Il intervenait au synode qui poursuit ses travaux au Vatican. Il s'agit du Monseigneur Norbert Werbs, évêque auxiliaire en Allemagne ex-RDA, qui a lancé un appel afin que l'Église s'interroge sur certains poids qu'elle impose aux fidèles, tels que l'interdiction du recours aux contraceptifs. Ne serait-il pas opportun, a-t-il dit, de rendre plus clair qu'autrefois la différence que fait le magistère entre l'interruption volontaire de la grossesse qui est condamnable et une planification familiale qui, elle, est acceptable. Ne serait-il pas opportun d'ôter aux parents ce poids de la distinction entre formes naturelles et formes artificielles de contrôle des naissances ? En Égypte, deux danseuses du ventre célèbres dans toute l'Égypte ont été condamnées à 3 mois de prison pour avoir exercé leur art avec trop de sensualité. Le tribunal a jugé que Fifi Abdou et India, qui se produisent dans un grand hôtel du Caire, dansaient, je cite, d'une façon dépourvue de tenue avec des mouvements dépravés. Le gouvernement hondurien a déclaré mardi la guerre aux sorcières, mages et autres devins qui ne cessent, d'après lui, de proliférer dans le pays. Soins médicaux, discrimination des sexes. De plus en plus de chercheurs mettent en évidence une réelle discrimination en matière de soins basée sur le sexe. En d'autres termes, ils concluent que les femmes sont souvent moins bien traitées que les hommes pour certaines affections graves. Les femmes consultent en moyenne plus souvent que les hommes, prennent plus de médicaments, sont l'objet d'un plus grand nombre d'investigations simples, examens de sang et d'urine. Dans la multiplication du nombre d'examens, il faut bien sûr compter tous les examens liés à la grossesse et aux problèmes gynécologiques. Mais il semblerait donc que pour les affections mineures ou psychosomatiques, elles soient l'objet d'un plus grand nombre d'actes et de prescriptions que les hommes. Cela ne signifie pas d'ailleurs un meilleur traitement. Mais lorsqu'il y a une grosse casse qui nécessite une transplantation rénale, un infarctus du myocarde avec nécessité d'une intervention sur les artères, etc., il semble bien que les hommes soient l'objet de plus de soins plus spécifiques destinés à régler le problème organique. Dans les mêmes circonstances, les femmes sont fréquemment moins bien soignées que les hommes car beaucoup plus souvent, l'aspect organique est moins bien pris au sérieux. Les médecins estiment dans l'ensemble que les plaintes présentées par les femmes, au moins en partie, sont à mettre sur le compte d'un état émotionnel, d'anxiété, etc. Raison pour lesquelles elles bénéficient moins que les hommes des avantages technologiques et des plus sophistiqués, et surtout lorsqu'elles en bénéficient, c'est avec un certain retard. Sommet prévu en Suisse pour la promotion des femmes rurales. Un sommet pour cette promotion économique des femmes rurales va rassembler à Genève en février prochain les épouses des chefs d'État et le gouvernement aux côtés des responsables d'agences des Nations Unies, d'institutions financières internationales et quand même de femmes rurales qui pourront pour la première fois exprimer leur expérience et leurs attentes. L'initiative lancée par le Fonds international pour le développement agricole, la FIDA, à la requête d'un groupe d'épouses des chefs d'État et des gouvernements de Colombie, Égypte, Malaisie, Nigeria, Sénégal et Turquie, a reçu le haut patronage de la reine Fabiola de Belgique. Pourquoi ce sommet féminin rural ? Il s'agit, dit la FIDA, de reconnaître et de promouvoir le rôle actif des femmes dans le développement. Un rôle crucial qui a été, dit-on, jusqu'ici trop négligé. Rôle dû non seulement à la multiplicité de leur présence et de leurs fonctions, mais aussi à leur capacité notoire d'intervention. Les femmes, ce sont des acteurs aux fonctions stratégiques dans la recherche constante d'approches nouvelles pour assurer la sécurité alimentaire plutôt que des victimes impuissantes de la pauvreté. Préparé par 4 consultations régionales et une consultation internationale, le sommet sera une tribune sans égale pour mettre en évidence le potentiel des femmes dans la lutte contre la pauvreté. En Suisse, première enquête sur la population active, 7 femmes sur 10 ont une activité rétribuée. La Suisse compte plus de 3 millions de personnes actives. Il y a environ 2 millions d'hommes et 1,5 million de femmes. Elles représentent donc le 43% de la population active. Si on prend les personnes entre 15 et 65 ans, donc l'âge où on travaille, les femmes sont 68% à travailler, c'est-à-dire 7 femmes sur 10 qui exercent une activité professionnelle rémunérée. Cette proportion très grande de femmes actives s'explique par le fait qu'un nombre élevé de ces personnes travaillent sur la base d'un contrat atypique, quelques heures par semaine, par jour, jusqu'à des temps partiels. Bien sûr, les hommes restent beaucoup plus nombreux à occuper des fonctions de cadre. Les Suisses sont donc plus nombreuses à exercer une activité professionnelle que leurs voisines en France, en Italie, etc. Par contre, elles ont aussi la palme en ce qui concerne la durée du travail qui, en Suisse, est de 41h07, contre 40 heures en Allemagne, 39 heures en France, 38 heures en Italie, 37 en Autriche. À ce propos, je voudrais en avance donner le cochon de la semaine à la personne, au journaliste, on imagine une personne de la rédaction de la Tribune qui a donné le titre à cet article. 7 femmes sur 10 travaillent, comme si les autres ne travaillaient pas, puisque à la maison, bien sûr, on se tourne les pouces, et comme si ces 7 femmes, en rentrant chez elles, elles aussi se mettaient les doigts en éventail en attendant qu'on les serve. Votation en ville de Zurich, le centre culturel alternatif est victime du verdict négatif. Plus de 55% des voix ont refusé un crédit pour ce centre. À l'issue d'une campagne à nouveau très polarisée, puisque c'est la deuxième fois qu'on vote sur ce sujet, les citadins ont refusé ce crédit annuel d'exploitation de 750 000 francs pour le centre culturel alternatif. La droite s'était fortement opposée, accusant la majorité rose-verte de vouloir faire de ce repère d'agitateurs et d'extrémistes le joyau de sa politique culturelle. Issue comme la célèbre Rote Fabrique du mouvement des années 80, le Kanzlei s'était ouverte en septembre 84 et fonctionnait depuis sur un mode provisoire. Le maire de Zurich n'a pas caché sa déception à l'issue de ce scrutin négatif. Les femmes, a-t-il dit, les étrangers et la culture n'ont manifestement pas la cote en ce moment. Le centre devra fermer à la fin de l'année. Le ciné-club Xenia pourra toutefois subsister. Le refus du crédit régulier d'exploitation est, à son avis, le reflet de la polarisation de la ville. Il est clair que le centre devra fermer à la fin de l'année. On ignore où se retrouveront les milliers d'hommes et de femmes qui le fréquentaient. Toujours en Suisse, les élections à Fribourg, les radicaux perdent leur siège et Ruth, l'outil du Parti socialiste, sera la seule femme à siéger dans un exécutif roman. À Genève, trois femmes du Kosovo sont venues au centre social protestant pour demander au CICR, à la Croix-Rouge, l'ouverture d'une antenne dans le chef-lieu du Kosovo. Ce sont des mères et les sœurs des soldats kosovars disparus qui nous envoient, a expliqué Edita Tahiri, l'une des trois femmes arrivées au centre social protestant. Représentante du forum des femmes de la Ligue démocratique du Kosovo, elles ont ramené avec elles à Genève une liste de 235 noms en même temps que des appels à l'aide. La Croix-Rouge serbe dans la capitale du Kosovo, refuse de nous donner les noms des morts et des déserteurs, continue Madame Tahiri. Nous comptons par conséquent saisir le comité international de la Croix-Rouge afin qu'il ouvre un bureau à Pristina pour en savoir plus. Le siège de l'UNESCO à Paris et le Parlement européen de Bruxelles sont les prochaines étapes de la délégation albanaise qui compte également demander l'ouverture d'une commission d'enquête sur le démantèlement du système éducatif albanais au Kosovo. Selon les représentantes du forum, 6000 instituteurs albanais et 400 professeurs d'université auraient été licenciés abusivement l'espace de quelques semaines et plus grave, les écoles n'auraient pas rouvert leurs portes depuis la rentrée. Toujours en Suisse, l'initiative populaire Conseil National 2000, qui demandait une représentation égale des hommes et des femmes à la Chambre du Peuple, a été retirée, non seulement faute de moyens financiers, mais également à cause des difficultés rencontrées pour la récolte des signatures. L'Association suisse des femmes ingénieures, l'ASFI, qui vient d'être fondée à Zurich, a pour but de rendre cette profession plus attractive pour les femmes. À côté d'un service d'information, l'ASFI organisera des symposiums et des séminaires. Excusez-moi. À Lausanne, une jeune femme accède à la présidence du Parti socialiste. Sylvia Zamora est la nouvelle présidente des socialistes lausannois. Inégalité de salaire, la Migros n'est pas condamnée. Une employée de la Migros recevait 14% de moins que son collègue masculin. La Migros lui ayant versé la différence, les prud'hommes n'ont pas voulu condamner l'entreprise sur le fond. Même après avoir obtenu satisfaction matérielle, l'ancienne employée avait maintenu sa requête, souhaitant que les prud'hommes sanctionnent ce cas de violation de l'article constitutionnel de l'égalité. Mais le tribunal de prud'hommes, tout en reconnaissant que la question de l'égalité est fondamentale et intéressante, n'ont pas voulu trancher sur la question. L'avocat de la jeune femme a regretté que la violation d'une norme constitutionnelle ne puisse pas être sanctionnée par le tribunal. Les effets du jugement ne peuvent pas être étendus à d'autres employés dans le même cas qui ferait valoir une inégalité de traitement. Une femme au moins continue à être moins payée que ses collègues masculins, a indiqué la plaignante. Thank you. En Suisse, les offres d'emploi sont sexistes, c'est ce que déclare le Bureau fédéral de l'égalité. La formulation des offres d'emploi ne fait rien aujourd'hui pour promouvoir l'égalité des sexes sur le marché du travail. Les femmes sont moins sollicitées que les hommes, ne peuvent que se sentir moins concernées par les exigences. En conclusion d'une étude intitulée « Pourquoi pas une femme ?», le Bureau fédéral de l'égalité a publié vendredi de recommandations concrètes en affirmant « les métiers n'ont pas de sexe ». 3 annonces sur 4 ne s'adressent qu'à un des deux sexes. Dans 60% des cas, c'est des hommes. Parmi celles qui s'adressent aux deux sexes, soit un quart du total, une sur 5 n'est rédigée que partiellement au féminin. En général, plus le poste mis au concours occupe une position élevée, plus la formation requise est poussée, moins nombreuses sont les annonces qui s'adressent aux femmes. Constat inquiétant, 45% des annonces pour des postes d'apprentissage sont formulées uniquement au masculin. Les entreprises qui décident d'engager des femmes dans les domaines où elles sont sous-représentées doivent rédiger leur annonce au féminin ou mentionner l'existence d'un tel programme de promotion. Les offres de postes d'apprentissage doivent faire l'objet d'un soin particulier. Plusieurs femmes lauréates, plusieurs femmes écrivaines et actives lauréates cette semaine. La Société des écrivains a remis le prix donc, de la Société genevoise des écrivains offert par la ville de Genève à la lauréate Fawzia Assad pour son manuscrit « La grande maison de Louxor, saga d'une famille égyptienne de l'expédition napoléonienne à nos jours ». Autre prix, 3 femmes qui en sont décorées par l'ambassade d'Israël à Berne. Elles ont, pendant la guerre, sauvé 11 enfants juifs et aidé de nombreux juifs à entrer en Suisse malgré l'interdiction du gouvernement de l'époque. Dans la nuit du 3 au 4 octobre 1942, Raphaël Guir réussissait à entrer en Suisse au sud-est de Genève. Devenu ambassadeur d'Israël en Suisse, il remettait jeudi dernier à Berne la médaille des justes parmi la nation aux 3 femmes qui avaient permis ce sauvetage et celui d'autres enfants juifs. Il s'agit de Madame Anne-Marie Imhoff-Piguet de Konis-Berne, de Sœur Madeleine Cordier des Hospitaliers de Beaune et de Madame Victoria Ritz-Cordier de la Chapelle des Bois. Si vous voulez en savoir plus, je vous propose de lire le livre écrit par Anne-Marie Imhoff-Piguet, La filière, aux éditions de Latil. C'était les nouvelles, Radio Pleine Lune, 93.8 MHz.
Comme des aimants attirés, repoussés et sans cesse y tenter de s'aimer, mais les bons sentiments, ça fait pas du ciment. Rassurant, moi ça va plus, elle rend les armes.
lent. Faire sa vie à deux. Faire sa vie à deux.